Cet après-midi, notre démarche, c'est à la fin de l'après-midi, c'est sur le. On va avoir la possibilité de rencontrer un prêtre pour le pardon. L'imposition des mains pour ceux qui le veulent. Quelqu'un va vous expliquer ça tantôt. Alors, faire prier sur vous. Alors, pour nous préparer à cette démarche, je prends une parole de Dieu. Alors, c'est la femme adultère. Ce jour-là, chacun des pharisiens s'en allèrent. Ils se retranchèrent chacun chez soi dans sa maison. Jésus, lui, gagna le mont des Oliviers. Et dès le point du jour, il revint au temple. Et comme le temple, et comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à les enseigner. Les scribes, les pharisiens amènent alors une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Ils l'amènent là et la placent au milieu du groupe. Ils font un cercle autour d'elle. Et les pharisiens lui dirent, « Maître, cette femme-là a été prise en flagrant délit d'adultère. » Dans la loi de Moïse, on dit qu'on doit lancer des pierres à cette femme-là et la lapider. Qu'est-ce que tu en penses? Il parlait ainsi parce qu'il voulait tendre un piège à Jésus. Alors Jésus, se baissant, s'agenouilla et se mit à tracer par terre des traits sur le sol. Et comme il lui posait encore des questions, Jésus se redressa et il leur dit que ceux d'entre vous qui sont sans péché, lui lancent la première pierre. Alors, les gens se retirèrent l'un après l'autre, en commençant par les plus âgés. Et tout le monde se retira et Jésus resta seul. Et comme la femme était toujours là au milieu du cercle, Jésus se redresse et lui dit, « Femme, où est-ce qu'ils sont? Personne ne t'a condamné. » Et elle lui dit, « Personne, Seigneur, m'a condamné. » Alors Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus. »
Comme la femme adultère, chacun dans notre humanité, on fait des erreurs, on fait des mauvais choix. Et ce que j'ai particulièrement aimé hier du témoignage de Philippe, c'est quand il a dit que dans les commandements, on nous parlait au futur. Ça m'a rappelé comment Dieu est là, toujours présent, toujours bienveillant à attendre. Attendre patiemment, qu'on veuille bien l'écouter, qu'on veuille bien marcher avec lui. Et dans toutes les misères qu'on porte, quelles qu'elles soient, ce qui vient toujours nous aider à avancer, c'est quand on s'ouvre à l'amour. Quand on s'ouvre à l'amour de Dieu, plus spécifiquement. Si vous voulez, dans le temps de cette chanson-là, je vous demanderais de réfléchir à ces choses-là pour lesquelles vous n'êtes pas content. Les choses que vous avez envie de vous pardonner à vous-même et les choses qu'il faudrait que vous pardonniez à d'autres pour les laisser libres, libres d'aimer, libres de marcher avec Dieu.
Car il peut vous aimer.
Par une petite parabole. Alors il paraîtrait que une madame, à un moment donné, était dans un moment de... Elle avait prié le soir et pendant la nuit, elle se met à rêver. Et dans son rêve, elle se voit dans un magasin général. Alors, elle fait plein d'affaires dans le magasin. Alors, et elle vient à la caisse et elle s'aperçoit que le caissier, c'est Dieu. Elle dit, oh ben, hey, elle dit, c'est le temps. Il faut que j'y demande tout ce que j'ai besoin, tout ce que je veux, tout ce qu'il y a de meilleur pour mes enfants, tout ce que je veux pour mon mari, tout ce que je veux pour mon avenir, mes rêves. Alors, elle se met à demander à Dieu, Dieu lui dit, c'est quoi tu veux? Hey, je veux les plus beaux fruits, je veux ce qu'il y a de meilleur, pour mon mari, mes enfants. Et Dieu le regarde avec un beau sourire, un Moses de beau sourire. Et Dieu dit, madame, Je pense que vous vous êtes trompé d'endroit. Madame, chez Dieu, on donne jamais de fruits, on vend jamais des fruits, on donne, puis on offre seulement avec des semences. Ma Moses, mon étoile, t'es venu chercher ici en fin de semaine des fruits. Je te garoche des semences. T'es lâche, hein? T'es vache un petit peu. De vouloir des fruits toutes faites. Wow, 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 là. Dans l'amour, il n'y a rien de toutes faites, là, hein? C'est rien que des commencements, c'est des semences. Et les semences qui vont être jetées dans le body, dans le système en fin de semaine, je te jure, je te passe, je t'assure que ça va travailler à son heure, à son jour. Donc, c'est des semences. Et comme ça fait longtemps que la vie te garoche des semences parce que tu as rencontré des filles extraordinaires, tu as peut-être eu des parents un petit peu, une mère un petit peu exceptionnelle, puis tu as peut-être été dans des groupes de jeunes pour découvrir des choses, alors il y a des semences. Mais tu sais ce que c'est? Des fois, nous autres, on est bien capable de mettre un couvert sur les semences. Alors moi, je te fais le coup de salaud de dire, « Hey, toi, je vais te brasser les semences, puis je vais te faire enlever le cœur. Et puis toi, je vais te faire rêver en fin de semaine. » Ça se peut pas. Il y a une pensée, il y a un auteur spirituel qui dit que il y a rien qui descend du ciel s'il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui le désire depuis longtemps et qui le désire très fort. Le gars que tu vas marier un jour, il est dans le ciel de ton cœur, il est à l'intérieur de toi. Et le ciel va te le donner, la vie va te le donner, uniquement quand tu vas l'avoir longtemps désiré, puis attendu, puis espéré. Écoutez bien, là, je vous redis ça. La vie te donne rien que tu désires pas. Alors arrête d'avoir peur à la fin de semaine, d'avoir quelque chose, que la merde te tombe sur la tête et que Dieu te demande des affaires que tu veux même pas lui donner. Dieu, quand il veut te donner quelque chose, il te le fait désirer longtemps avant. Parce que si tu ne l'as pas désiré, puis si tu ne l'as pas attendu, puis tu ne l'as pas espéré, même si il te le donne, tu vas passer à côté. Alors, il te donne uniquement ce que tu désires depuis longtemps. Alors, je vais t'aider, par les exemples, à matin, aujourd'hui, je vais t'aider juste à te faire encore désirer plus, parce que le ciel, arrête de rechercher ça en l'air, le ciel, c'est quelque chose à l'intérieur de toi. T'as une enveloppe à l'intérieur de toi, il y a un ciel à l'intérieur de toi, il y a un amour comme ça se peut pas à l'intérieur de toi, il y a des rêves à l'intérieur de toi, il y a la vie à l'intérieur de toi, il y a Dieu à l'intérieur de toi, et à un moment donné, là, certains, depuis un certain temps, ils s'endurent plus. Depuis un certain temps, certains parmi eux autres, ils se comprennent plus. Depuis un certain temps, ton père te comprend plus pantoute, parce que ton père, lui, est assez hâte que tu campes, il est assez hâte que tu aies une bonne job, puis que tu aies de l'argent là pour la vie, puis que tu sois moins insécure, que des fois, il voudrait te voir camper tout de suite, là, puis toi, là, tu sais, t'as tellement désiré avoir un auto jeune, là, hein, que des fois, là, t'as travaillé rien que pour t'acheter un auto, là, hein. Et puis là, dernièrement, t'as perdu ta job. Alors là, étant donné que t'as perdu ta job, t'es obligé de te dire, hey, c'est quoi que je veux dans la vie, c'est quoi mes rêves, c'est quoi mes désirs, c'est quoi mes plus grands projets. Je te redis ça. Quand la vie s'aperçoit que t'es enfin arrivé à quelque chose que t'espérais, t'as un bon travail, là, le Seigneur dit, à cette heure que t'as un travail, on va regarder à cette heure, t'es fait pour quelque chose de mieux que ça, et puis là, je vais te faire espérer, et puis à un moment donné, là, tu rencontres une belle, tu sais, une femme amoureuse, c'est pas possible. Là, t'as une partie de ton rêve qui est réalisée. Et là, la vie s'appelle après tout pour te dire, à cette heure que t'as ce rêve-là, c'est quoi ton rêve plus grand que ça, puis c'est quoi ton rêve encore plus profond que ça, puis là, tu as cherché, puis c'est assez fatigant. Hey, tes rêves sont en train de se réaliser, sont en train de se réveiller. Pour vous faire entrer dans la parole, puis dans le message que je vais vous donner ce matin avec la femme adultère, vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui nous rejoignent là-dedans. Je vais partir d'un témoignage. Un témoignage qui m'a beaucoup frappé, qui m'a toujours aidé dans le travail que je fais comme prêtre auprès des jeunes. Ça fait peut-être 20 ans. suis dans un pénitencier, l'Institut Archambault, le maximum Archambault à Saint-Anne-des-Plaines. C'est un maximum. Des sententes de 20 ans et plus. Et on me demandait souvent dans les prisons d'aller parler aux prisonniers. Alors je suis là, je leur parle de leur enfance, de leur passé, de leur avenir, de la foi, de leurs femmes, de leurs enfants. Et puis je donne des témoignages. Et il y en a une espèce de gars, vous savez, Hells Angels. Il coupe la parole, il fait des farces, il dérange tout le monde. J'ai dit, Corinne d'affaires, veux-tu me dire, c'est quoi qui se brasse à l'intérieur de lui pour qu'il déconne comme ça? Alors, après ma conférence, plein de questions, les gens. Alors, lui, l'espèce, il demande aux gardiens de venir me reconduire à la porte. Fait qu'on est dans le corridor, je dis, pourquoi tu veux me reconduire? J'avais des choses à te dire. Ah, j'ai dit, avant que tu me dises ce que tu as à me dire, mon grand, c'est quoi cette affaire-là, à soir, de déranger tout le monde? C'était quoi cette affaire-là, de m'arrêter de parler? C'est quoi qui se brassait? C'est quoi qui t'énervait? C'est quoi que tu vivais des émotions? Je jouais dans, du niaiseux. Tu t'es pas vu aller? Hey, tu parlais en avant, puis tout ce que tu disais, c'était mon passé, c'était mon enfance, c'était toute mon histoire. On aurait dit que tu parlais rien que pour moi. On aurait dit que quelqu'un que t'avais vu le film de ma vie, puis tu me remettais le film de ma vie en pleine face. Hey, tu sais-tu quoi? Ça fait 27 ans que je t'en dedans, chose. Puis c'était à vie. Et puis là, tu m'as parlé de ma femme, tu m'as parlé de mes enfants, tu m'as parlé de mon enfance. Puis moi, toutes les émotions montaient, là, hein. Je savais pas quoi faire avec ça. Ça fait des années que je me suis pas senti. Je me suis toujours gelé. J'ai toujours été dans la consommation. J'ai jamais senti d'émotion. Alors, à soir, tu faisais monter plein d'affaires. Hey, tu sais que t'es énervant, toi, qui me dis? Ben, j'ai dit, pourquoi t'es venu me reconduire? Ben, il dit, c'est parce que j'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a parlé comme toi. J'ai jamais rencontré quelqu'un dans ma vie qui m'a touché le cœur comme toi, puis je voulais te le dire, que si tu repasses par ici, hey, viens me voir, Boubou, j'ai besoin de toi, puis t'es la première personne qui m'a aidé comme ça dans ma vie. J'ai dit, dis donc, toi, pour être amanché dans la prison, une sentence à vie, c'est quoi? C'est quoi ton problème? C'est quoi qui t'est arrivé? Il dit, écoute, ben, j'avais 5 ans et demi, qu'il me dit, je jouais au hockey. On était dans une série éliminatoire. Je voulais gagner la partie. Je voulais que mon équipe gagne. J'ai compté 3 buts, puis c'est moi qui ai fait gagner mon équipe. J'étais tellement fier. J'étais tellement content. En tout cas, le cœur me battait, hein. J'avais 5 ans et demi. Puis il me semblait que ça allait être la première fois que mon père allait être content de moi, que mon père allait me féliciter, que mon père allait être fier de moi. Je suis parti de l'aréna en courant, hein. Hey, je volais. Je suis arrivé chez nous, j'ai rentré dans ma maison, j'ai fait ni un ni deux, j'ai sauté dans les bras de mon père. Je l'ai serré. J'ai pas eu le temps de lui dire que j'avais compté 3 buts, que mon équipe avait gagné. Mon père m'a repoussé. Et mon père m'a montré du doigt en me disant, hey, t'es pas une tapette, chose, t'es pas une fille. Tu vas arrêter ça de prendre ton père dans tes bras, là. T'es pas un enfant. Arrête de me serrer dans tes bras. Puis que je te voie plus me prendre dans tes bras. Et il dit, mon père m'a regardé dans les yeux avec une sévérité, puis il m'a dit, toi, là, hein, t'es un homme, t'es pas une fille, puis un homme, ça pleure pas. Puis que je te voyais plus jamais pleurer dans la vie. Tu m'entends? Que je te aille faire un homme de toi. Il me dit, il m'a tellement blessé, j'ai tellement senti qu'il m'aimait pas, que je m'en suis enfermé dans ma chambre ce soir-là, j'ai barré ma porte de chambre, j'ai pleuré toute la nuit. J'ai fait un vœu. J'ai fait le vœu de plus jamais prendre quelqu'un dans mes bras. J'ai fait le vœu de jamais, jamais, jamais plus pleurer pour quelqu'un. Et je me suis juré que jamais plus je souffrirai, puis jamais plus dans ma vie, je dirai à quelqu'un, je t'aime. Puis ce soir-là, c'est comme si j'avais mis du béton sur une blessure, sur une fente que j'avais dans le cœur. Et puis, ça fait des années de ça. Et t'es le premier ce soir, j'avais l'impression que pendant que tu parlais, t'avais une drill, puis tu me mettais ça sur le cœur, puis tu disais, toi, tu vas fondre, mon grand. Hey, toi, t'as un cœur derrière le béton, puis je vais te faire sortir tes larmes, certains. Puis il dit, c'est la première fois que je sentais que j'avais encore de l'amour. Et il dit, ce soir, pour la première fois de ma vie, j'ai versé des larmes. Alors, il me raconte ça, puis on est rendu à la porte. Ça fait que, il me dit, tu es obligé de partir. Ça fait qu'il étend la main, puis il se met à trembler, à shaker. Ça fait qu'il met la main sur mon épaule, j'ai dit, t'as shaker, c'est quoi ça fait là? Il dit, depuis que ça m'est arrivé à 5 ans, j'ai jamais touché à une personne humaine. Il n'y a jamais quelqu'un qui m'a touché. J'ai jamais mis. J'ai jamais eu une tendresse de quelqu'un, j'ai jamais eu une affection de quelqu'un. Et il me racontait après, dans ses écrits, dans ses lettres, comment ce soir-là, sa vie avait changé. T'as encore un cœur. T'as des rêves. T'as des prières. T'as de la tendresse. Tu crois à l'amour, tu crois encore que tu peux être aimé. Et cette femme-là, la femme adultère, là, hein, qui a été prise, qui a fait une erreur dans sa vie, et que tout le monde a senti abandonné, elle s'est sentie mise de côté, elle s'est pas sentie écoutée, elle s'est pas sentie regardée, elle s'est pas sentie quelqu'un, et a tout mis ça de côté. Si jamais tu as été dans la drogue pendant un bout de temps, si jamais tu as pensé au suicide, si jamais tu as décroché de tes études jeunes, souvent, c'est parce que tu crois pas que tu as ce qu'il faut pour te lancer dans la vie. La femme adultère, après ce qui lui était arrivé, elle ne croyait pas, elle n'y croyait pas. Je ne sais pas... Quand je regarde la femme adultère qui a fait une erreur dans sa vie, chacun de nous autres, d'une façon ou l'autre, on a certaines erreurs. On a tous des choses à se faire pardonner. On a tous des choses à se faire reprocher. Mais cette femme-là, ce qui était le plus dur, c'est peut-être pas son erreur. C'est qu'on l'avait jamais écoutée. Hey, avez-vous remarqué qu'il n'y a pas un mot de dit homme dans l'Évangile? Il n'y a pas un homme qui a dit, pourquoi tu t'es ramassé dans le lit avec un autre? Pourquoi tu t'es ramassé dans les bras d'un autre? Pourquoi tu as fait ça à ton mari? Pourquoi que ça t'est arrivé? Il n'y a personne qui l'a fait parler. Une des choses les plus difficiles que certains d'entre vous vivent, c'est comme un régime de silence. S'il fallait que ma mère save ça, s'il fallait que mon père apprenne ça, s'il fallait que ma blonde save ça, s'il fallait, et tu gardes ça, puis des fois tu mets un couvert là-dessus, puis t'étouffes ça, et la seule façon, des fois, d'avancer en amour, d'avancer avec un ami de fille, d'avancer dans ta foi, dans ta spiritualité, la seule façon qu'elle avait, cette femme-là, de sortir de sa condamnation puis du jugement, c'était de le raconter, c'était de parler, c'était de le dire. Une fin de semaine comme ça, là, hein, c'est pas simplement fait pour écouter ce qu'il dit en avant. C'est pour parler. Trouve-toi quelqu'un pour parler. Trouve-toi quelqu'un qui est là dans l'équipe, qui est habitué à ça. Va voir un prêtre, mais parle. Je vous donne un exemple. J'ai accompagné, il y a quelques années, Raphaël. Raphaël, 25 ans, pris d'une leucémie. Probablement aussi, je pense, je le crois qu'il était atteint du sida, mais c'est la leucémie qui l'a apporté. 25 ans. Je suis sur la rue. Je passe devant l'hôpital Notre-Dame à Montréal, je me dis, ah, Raphaël. Je prends le temps de monter. On vient juste de transférer au soin intensif. J'arrive à côté de lui. Le visage changé, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas d'allure. Je m'approche de Raphaël, puis je lui dis, Raphaël, est-ce que tu t'es regardé dans le miroir ce matin? Tu t'es vu la face? Il me dit, tu avais passé la nuit blanche que j'ai passée, toi, hein? Tu serais pas venu pour moi matin, hein? Ah ouais. T'as passé une dure nuit. T'as passé une nuit blanche. T'as eu peur de mourir. T'as eu peur de te ramasser l'autre bord. T'as eu peur de nous laisser, de te ramasser. Et j'ai pas eu peur de mourir. J'ai eu. J'ai eu peur de partir. J'ai eu peur de partir sans avoir eu le temps de parler. T'as quelque chose à parler que t'as jamais parlé à personne, tu voudrais en parler. Il dit, écoute, j'ai 25 ans. Je vais probablement mourir la nuit prochaine, dans 2 jours ou plus. J'ai jamais, jamais, jamais pris mon père dans mes bras. J'ai jamais dit que je l'aimais. J'ai la mère la plus extraordinaire du monde. Elle a tout fait pour moi depuis 5 ans que je suis avec ma leucémie. J'ai jamais dit que si j'avais eu à choisir ma mère, c'est elle que j'aurais voulu comme mère. J'ai un frère, 18 ans, spécial. Depuis 5 ans, mes parents s'occupent de moi puis me donnent tout leur temps, puis lui a été négligé. Je ne me suis jamais excusé. J'ai jamais demandé pardon pour prendre tout le temps de mes parents. Il me dit, si je pars pour l'autre bord, ramanché comme ça, sans parler, je pars avec un secret, et si je pars comme ça, je suis certain que j'ai un poids lourd. Je traîne un poids lourd. Je ne veux pas partir comme ça. Raphaël, ce que tu es en train de me dire, là, c'est correct, hein? Mais c'est pas à moi qu'il faut que tu le dises. C'est à ton père. C'est à ta mère. Raphaël, parle. Dis-leur. On se laisse. Le lendemain, je remonte à l'hôpital. Je viens pour entrer. Les infirmières m'ont dit, il est dans le coma, il est parti. Non. Seigneur, c'est quoi? Pourquoi tu lui as pas laissé le temps de parler? Pourquoi tu lui as pas laissé une autre journée? Tu n'aurais pas pu faire ça pour lui. Et j'approche du lit, et sa mère était là, et elle dit, c'est toi l'ami, c'est toi le prêtre qui vient de voir. Oui. T'es-tu au courant de ce qui s'est passé cette nuit? Non, je n'ai pas eu de ces nouvelles. Tu sais quoi? Il nous a appelé à minuit moins 20. Il a fait venir son père, son frère, il m'a fait venir. Tout ce qu'il t'a dit hier, il est temps de te le dire. T'aurais dû le voir. Il était beau, il était beau. C'est, en tout cas, la caresse qu'il a donnée à son père, le pardon à son frère, c'était de toute beauté, Christian. Il est parti avec un sourire pour le grand voyage. Ça se peut pas. T'aurais dû le voir. Et moi, j'étais là à côté de Raphaël, puis je le regardais dans son coma, puis je disais, « Aïe, mon étoile. Heureusement que t'as parlé, hein. Hey, si t'avais pas parlé, toi, là, ton père serait tourné comment? Qu'est-ce qui serait arrivé à ton petit frère? Aïe, heureusement, t'as parlé. » La femme adultère, là, c'est comme nous autres quand il y a quelque chose qu'on a à parler puis qu'on parle pas. Tu sais comment est-ce que c'est dur quand tu perds un grand-père? Un grand-père. Un père encore plus dur. Et que tu lui as jamais, jamais, jamais dit ce que tu avais eu, tu aurais aimé lui dire avant qu'il parte. Tu vis avec ça, là. Alors, là, le pardon, hein, le pardon qu'on vit ce matin, c'est te donner le temps de libérer la parole, de dégager la parole, de délier ton monde, de te délier. L'amour est à l'intérieur de toi comme une bourse, comme une banque, comme une réserve, un trop-plein. Et tu as à donner cet amour-là à quelqu'un, et c'est dans cette mesure-là que toi tu grandis, que tu avances et que tes rêves peuvent se réaliser. Certains d'entre vous connaissent ce beau moment, ce beau témoignage que je raconte souvent au niveau du pardon. C'est un petit gars à Québec, de la Beauce. Il y a 5 ans à peu près, 6 ans, l'enfant avait 4 ans. L'enfant s'est fait passer par une vanne. Le monsieur était saoul et le monsieur n'a pas vu l'enfant et il lui a passé avec sa vanne sur les deux jambes. L'enfant est paralysé pour la vie. Il y a 3 ans, on l'amène à Medjugorje, au lieu des apparitions de la Vierge, et les gens sont sur la montagne des apparitions, puis le monde prie pour un miracle, pour la guérison de l'enfant. Il y a une ferveur et l'enfant, il est porté par des milliers de pèlerins. Et à un moment donné, l'enfant se met à trembler, il se met à vivre une émotion très, très, très forte, et il devient très, très, très intense, et il se met à pleurer, puis il dit, « Maman, je suis guéri, maman, il y a un miracle, maman, je suis guéri. » La mère regarde, elle dit, « Ben non, tes jambes ne bougent pas. Tes jambes sont aussi paralysées. Non, non, attends. » Arrête là, tu t'énerves, et puis t'es ému, là, je comprends. Bon, attends, on va arriver à Québec, puis on verra le médecin, tu veux? L'enfant laisse tomber. 10 minutes après, il se remet à pleurer, l'émotion, il dit, maman, tu me crois pas, hein, je te le dis, il y a un miracle. Maman, je suis guérie. Elle dit, mais qu'est-ce qui te fait dire que tu es guérie? Maman, hein? Je viens de pardonner au monsieur qui m'a passé avec sa vanne sur mes deux jambes. Maman, hein? J'ai pardonné. Je te dis pas que mes jambes y marchent. Je te dis pas que mes jambes y bougent, là. Mais je te dis que maintenant que je lui ai pardonné, à l'avenir, je vais être capable d'être heureux, puis je vais être capable d'aimer, puis je vais être capable de continuer à vivre, même si j'ai plus mes deux jambes. J'ai pardonné, maman. Souvent, t'as un pardon à donner. Et le pardon le plus difficile pour la femme adultère, c'était pas de pardonner à l'homme qui avait fait ça, puis aux hommes qui la condamnaient toutes, c'était de se pardonner à elle. Pardonne-toi de ne pas avoir été parfait. Pardonne-toi de ne pas savoir ce que tu sais aujourd'hui, de ne pas l'avoir su avant. Pardonne-toi d'avoir vécu des expériences que tu aurais aimé ne pas vivre, mais que tu as passé par ça. Tout à coup que ça te servirait, tout à coup que tu apprendrais de ça, puis tout à coup que ça te ferait grandir, puis tout à coup que ça te ferait aller plus loin. Vous savez, le pardon, c'est quelque chose, hein? Quand, vous savez, la femme adultère, hein? Qui c'est qui a fait qu'elle a pu s'en sortir, puis qu'est-ce qui a fait qu'elle s'est sentie pardonnée, puis qu'est-ce qui a fait qu'elle a pu retrouver, là, tu sais, une joie de vivre, puis un plaisir de vivre, je dirais, pour s'en sortir, pour que tu avances comme jeune, moi j'appelle ça, il faut que tu trouves des anges dans ta vie. La Bible dit qu'il y a des anges en notre vie. Hein? S'il n'y avait pas eu d'anges en votre vie, il y a certains parmi vous autres qu'il y a des accidents que vous seriez jamais sortis. Si vous n'aviez pas eu d'anges en votre vie, certains d'entre vous qui ont eu le goût de suicide un jour, c'est une personne qui t'a appelé, c'est une personne qui avait besoin de toi, c'est une personne qui est venue te voir, et aujourd'hui tu es vivant parce qu'il y a quelqu'un qui t'a été envoyé au bon moment. Il y a quelqu'un t'a rencontré les bonnes personnes au bon moment, et des fois t'as été un ange pour un autre, un ange pour une jeune à l'école qui voulait se peut-être s'enlever la vie, qui voulait se faire avorter, un jeune qui était dans une peine d'amour et il aurait pu faire des gaffes, mais toi t'as été là, son ami, là, sa copine, t'as été là puis tu l'as fait parler et t'as été un ange pour lui, t'as été un ange pour elle. Je vais dire ça. Aux États-Unis, dans la baie de Tampa Bay, il y a le plus haut pont du monde, c'est là qu'il y a le plus de suicides. Il y a un policier qui est là, qui est un croyant. C'est un homme qui est un homme de la parole de Dieu. C'est un homme qui est dans la prière. Il est policier, il est chargé d'aller chercher les jeunes qui vont s'enlever la vie, se jeter tout en bas du pont. Il y a un don, il y a un charisme extraordinaire. On dit qu'il sauverait de 7 à 8 vies par semaine, des suicides certains. Et quand vous lui demandez comment tu fais pour l'empêcher de se jeter en bas du pont, le policier dit, quand un jeune monte sur le pont et qu'il se met à se piquer une trail à travers la ferraille pour monter sur le palier le plus haut, c'est parce qu'il veut être vu, c'est parce qu'il veut être entendu. Alors quand j'arrive à monter où ce qui est rendu, je sais qu'il y a un message à dire au monde avant de mourir, et si je lui fais dire le message qu'il y a à dire, si je lui fais sortir ce qui voudrait que les gens comprennent puis entendent, je le sauve. Il n'aurait peut-être même pas besoin de se jeter en bas du pont. Il y a un message à dire puis qui n'a jamais été entendu puis on ne l'a jamais cru. Et si je lui fais sortir son message, je le sauve. Et il dit, même des fois, je les échappe, mais si on dit leur message, je suis sûr qu'ils vont être sauvés. Tu as un message à dire. Il y a quelque chose comme jeune que tu veux que les adultes comprennent. Il y a quelque chose à l'intérieur de toi que tu veux faire comprendre au monde. Quand tu es allé vite à la sexualité, puis tu as brûlé des étapes bien raides, puis tu t'es écorché le cœur avec tes expériences sexuelles, Tu voulais dire quelque chose au monde. Tu voulais te faire entendre. Tu avais un message à dire. Et c'est ce message-là qu'il faut qu'on entende. Vous savez, le plus dur pour la femme adultère, c'était pas d'avoir commis l'adultère, c'est que on croyait pas à sa souffrance. Le plus dur pour un jeune, on te croit pas. Pas si grave que ça. Il y en a d'autres qui ont vu ça, ça a été pire que toi. C'est pas la fin du monde, ce que tu vis. Hey, ce que je suis en train de te raconter, c'est ma souffrance à moi. C'est ma peine à moi. C'est le fait que je me sens pas aimé, je me sens pas important. Le plus dur pour un jeune, souvent, c'est l'indifférence qu'on a à ce que tu traverses, à ce que tu souffres, à ce que tu vis. Supposons que tu es dans une grande, grande peine d'amour. Toi, là, tu as l'impression que le monde est en train de s'effondrer, puis il n'y a plus de raison de vivre pour toi parce que tu vivais pour cet amour-là. Mais si tu n'as pas quelqu'un pour dire « je te comprends », je ne sais pas si parmi vous autres, vous avez eu un père qui n'était pas à la maison, qui était séparé de ta mère, et qu'un père qui n'était pas trop responsable, et qui te disait « vendredi soir, mon gars, je vais te chercher ». Vendredi soir, ma fille, là, je vais te chercher, puis tu passes la fin de semaine avec moi, puis papa va t'amener à la ronde, papa va t'amener. Quand ton père te promettait des affaires, puis qu'il n'était jamais là, tu te souviens ce que ça a fait dans ton cœur d'enfant, et comment tu te sens toujours, tu as toujours peur d'être abandonné, tu as toujours peur que les gens ne te croient pas, tu as toujours peur que les gens ne soient pas là quand tu as besoin. Avoir un ange. Regardez, je vais vous dire comment... Vous avez été des anges pour des gens. Un jour, je suis dans une fin de semaine de jeûne. Le Rêve de Saint-Jacques, pas loin de Joliette. 150 jeunes, toute une fin de semaine ensemble. Alors, j'ai donné des conférences, j'ai rencontré les jeunes individuellement toute la journée. Alors, il est 3h-20 dans la nuit, le samedi au dimanche, et j'étais encore en rendez-vous avec les... Puis, j'écoute des jeunes. Puis, à 3h-20... je suis capable de suivre le jeune qui est devant moi, puis je suis fatigué, je suis vidé des reins. Alors, généreux comme je suis, je dis, Seigneur, j'espère que c'est le dernier. Je suis capable. Allez, Seigneur, résiste-toi, il ne faut pas regarder mon cul. Fait que je sors du bureau, puis il y avait un jeune évaché sur le banc qui m'attendait. Fait qu'il me regarde et dit, hey, mon Dieu, t'as de l'air brûlé, hein? Ouais, j'ai dit un petit peu, j'ai de la misère à suivre, là, mais c'est pas grave. Alors, il dit, moi, c'est pas long, il dit, c'est 3 minutes. Ah oui, 3 minutes. tu pourrais pas attendre demain matin? Non, je pars demain matin à 6h17, puis c'est... Je veux rien qu'un message de toi. Je veux rien que tu me dises un message d'encouragement. Dis-moi un message. Hey, j'ai dit, je t'ai vu aller toute la journée, toi, là. Pendant la journée, aujourd'hui, avec le monde, avec les autres jeunes, avec les parents qui étaient là. Je vais te dire que tu es un gars spécial, hein? T'es beau à voir, c'est pas possible. Mais je ne sais pas ce que tu as vécu dans ta vie. Je ne sais pas ce qui t'a manqué. Je ne sais pas si c'est ton père qui t'a manqué. Mais en tout cas, je te dis que tu es attentif aux filles. Puis, me semble, toi, là, tu vas guérir des filles qui ont été abusées par des hommes. Puis, les filles, là, hein, qui ont été, tu sais, qui ont eu de la violence d'hommes, toi, là, t'as une tendresse, tu vas guérir des filles. Toi, là, tu vas lui faire du bien, c'est pas possible. Je ne sais pas si tu as souffert, mais mon Dieu, que tu vas aider des jeunes qui n'ont jamais été écoutés par quelqu'un. Puis, moi, je te vois travailleur social, je te vois travailleur de rue, puis je te vois un jour dans un centre de femmes battues pour les écouter, puis les encourager, puis tu vas être un excellent thérapeute. Il dit, ah, ouais. Et puis, à part de ça, là, je dis avec d'amour que à manger comme t'es, dans une couple d'années, t'es marié, ça, c'est certain. Et puis, je te vois avec 4 enfants, en bas de 4, toi, je me surprendrais bien gros, t'as assez d'amour à donner, qu'il me semble que... Il dit, ah, ouais. Elle dit, alors, j'ai dit, bon, OK, tu pars. Je suis brûlé, c'est ça, plus, là. Je sais plus quoi dire. Elle dit, donne-moi rien qu'un message. Ah, j'ai dit, t'es fatiguant. J'ai dit, écoute, là, la femme t'a monté de gueule, là, puis va pas dire ça demain que je t'ai dit ça, là, hein, OK, là, parce que là, tu vas blesser des gens, mais tu sais-tu quoi, je te trouve tellement important comme jeune que moi, je donnerais ma vie pour toi, pour que tu sois heureux, puis que tu réussisses ta mission, et que tu rejoignes toutes les gens que tu as rejoints, moi, je donnerais ma vie pour toi. Il vient les larmes aux yeux, puis il dit, ah, oh, hey, je suis important, hey, je suis quelqu'un, wow, puis il part comme ça. Alors, moi, je rentre dans ma chambre, je m'évache sur mon lit, hey, je suis brûlé, là, ben raide, puis je dis au Seigneur, Seigneur, écoute bien ce que je veux dire. Tu sais ce que j'ai dit à la fin, là, au sujet que j'y donnerais ma vie, là, pour lui, là, hein? Efface ça ton tableau de bord, toi, là, hein? Oublie ça, là, hein? Hey, je suis pas prêt à faire ça, moi, là. Hey, j'étais bien trop fatigué, j'ai pas pensé à ce que je disais. Efface ça, hein? T'oublies ça, là, hein? Seigneur, je veux vraiment oublier ce jeune-là. 7 ans, jamais su son nom, je sais pas où il reste. Je pense à lui à tous les jours, une petite prière pour lui, je le remets à la main du Seigneur. 7 ans après, regardez bien, une nuit, le téléphone sonne, 3h-20. Il me dit, tu me reconnais-tu? Niaiseux. Merci qu'il m'appelle. Parle avant que je te reconnaisse. Dis-moi quelque chose. Ben, il dit, tu sais, fin de semaine, on aurait dit, ah oui, 3h-20 du matin. Ah oui. J'espère qu'il a oublié le dernier bout, lui. Alors, je lui dis, c'est qui te prend pour m'appeler à cette heure-ci, ça va mal, quoi? Non, c'était pour hostel. C'est mon anniversaire, 7 ans que je t'ai rencontré, tu as été un ange dans ma vie, et tu m'as lancé dans la vie. Hey, ça fait 7 ans, sais-tu quoi? Je suis marié, j'ai 4 enfants. Je suis travailleur de rue à Sainte-Agathe, dans le nord de Montréal, puis je tape demi-temps dans une maison de femmes battues. Je dis, ah ben, j'ai mon voyeur. Hey, j'ai dit, je suis content pour toi. Hey, dis, attends. Il dit, je t'ai pas encore dit pourquoi je t'appelais. Ah ouais. Il dit, tu te souviens-tu ce que tu m'avais dit quand tu m'as laissé? Ouais, je me souviens. Il dit, sais-tu quoi? J'appelais cette nuit pour te dire que moi, 7 ans après, ce que tu m'as dit, moi, à mon tour maintenant, j'aimerais ma vie pour toi. T'as jamais fait ça pour rien. T'es pas passé par là pour rien. T'as pas vécu ça pour rien. T'as pas eu ces parents-là pour rien. T'as pas manqué d'affection comme t'as manqué pour rien. Tu t'es pas senti rejeté par tes chums, par les amis de l'école pour rien. À un moment donné, tout peut te servir, tout peut te revenir et tout peut te faire avancer. Vous savez, moi, un moment important, mais bien important dans ma vie d'homme, dans ma vie de croyant, c'est le matin quand je prends le message sur mon répondeur. Vous savez, avec les jeunes que je m'occupe, c'est la nuit qui rechute dans la consommation, c'est la nuit qui vont être arrêtés par la police, c'est la nuit qui vont essayer de se suicider, c'est la nuit qui vont faire une overdose, c'est la nuit qu'ils vont essayer de tuer le blonde parce qu'elle lui a dit qu'elle les laissait, c'est la nuit. Alors, j'ai des messages la nuit, ben, vers 2h, 2h30, je mets le répondeur, parce que demain matin, il faut que je recommence ma journée. Et quand je prends les messages le matin, c'est bouleversant. Et j'ai souvent un message qui me dit, tu sais, hein, l'autre en pleurant au bout de la ligne, là, qui veut se suicider, ou qui vient de rechuter, qui est dans une overdose, tu sais, hein, qui me dit, j'ai personne d'autre que toi, hein. Moi, dans la vie, j'ai personne d'autre que toi. Et si toi, tu me laisses tomber, moi, je crève. Moi, je meurs. Laisse-moi pas tomber, j'ai personne d'autre que toi. Je vais reprendre le téléphone, je vais aller le voir, je vais aller la voir, je vais lui dire, je t'ai entendu cette nuit sur le répondeur. Tu m'as dit que tu avais personne d'autre que moi? J'ai une petite nouvelle pour toi. J'ai quelque chose à te dire. Tes parents n'ont personne d'autre que toi. Tes parents n'ont personne d'autre que toi pour leur dire, papa, je t'aime. Maman, hein? C'est important. Ta blonde, ton amie de fille, à personne d'autre que toi pour dire qu'elle est belle et qu'elle est importante. Tes parents, les enfants que tu vas avoir ont personne d'autre que toi pour leur dire je t'aime, c'est important. Aïe. Moi, là, quand un jeune me dit j'ai personne d'autre que toi, c'est comme si Dieu me disait, Christian, j'ai personne d'autre que toi, moi. Non? Pas d'autres bras, pas d'autres voix, pas d'autres yeux, pas d'autres tendresses. J'ai personne d'autre que toi pour ces gens-là que je te donne de m'occuper. Et je te jure, quand tu vas entendre dans ton cœur que la vie a personne d'autre que toi pour aimer les parents que tu as, pour aimer la blonde, le chum que tu vas avoir, que la vie a, que Dieu a personne d'autre que toi pour faire le travail que tu vas faire pour plus tard, que tu, les personnes que tu, quand tu comprends ça, quand ça tremble dans le canaillet, dans le body, dans les veines de ta peau, je te dis que tu peux déplacer des montagnes, tu as une énergie, tu as un front pas possible, tu peux renverser des murs, tu as confiance en toi. Quand tu crois, là, hein, quand tu crois, la foi, là, en passant, là, hein, la foi, là, c'est pas une de croire à Dieu, OK, là? Pas besoin d'avoir la tête à Papineau pour croire à Dieu, là, franchement. La foi, c'est pas une de croire à Dieu, c'est de croire que Dieu, lui, croit en toi. Et quand tu découvres ça, là, hein, Dieu croit en moi, hein? Pour Dieu, je suis la bonne personne. Je vous dis, vous déplacez de l'air. Hein. Ouh, je te dis que tu retrouves tes ailes, puis je te le dis que tu trouves de l'aplomb à quelque part, puis tu as le goût d'avancer. Je vous disais, la présence des anges. Une autre chose que moi, je trouve bien importante, là, dans le toute la question hein, de notre... Pour savoir reprendre, c'est de croire qu'on est des gens qui ont une importance. On est irremplaçable pour les gens. Il n'y a personne d'autre que nous autres qui est fait pour nous autres. Et moi, je voudrais vous laisser avec quelques images pour nous préparer au pardon. Deux, trois images, puis je vous laisse avec ça. Pour le pardon. Il y a cinq ans, il y a un alpiniste qui décide d'aller escalader les montagnes, des montagnes rocheuses. C'est un professionnel, il sait à quoi s'en tenir, puis il sait les dangers, une montagne très dangereuse. Alors, il arrive au pied de la montagne et les guides lui disent, oublie ça, hein, on va pas avec toi, là. C'est trop dangereux aujourd'hui. On annonce une avalanche de neige, une tempête. Pas question qu'on monte là. T'es venu trop tard. La noirceur va arriver. Non. Et lui décide de monter dans la montagne tout seul. À 4h de l'après-midi, il se met à faire noir, mais noir, comme ça, ça peut pas. Il s'aperçoit qu'il est loin d'être descendu de la montagne et il s'aperçoit qu'il n'aura vraiment pas eu le temps. Il prend son pied, son câble, puis il lance ça au bout d'un rocher pour être bien accroché pour que si la neige l'emporte, qu'il soit accroché après son câble pour se sauver. Il est accroché au câble et à un moment donné, le vent commence à tournoyer la neige. La neige, il part dessus les pieds, les deux pieds dans le vide complètement. Un avalanche épouvantable. Dans le ciel et terre, au bout de sa corde, et comme au bout de son câble, et comme le vent est fort, il se met à tourner, puis il n'est pas capable de reprendre son équilibre au bout de sa corde. Et à un moment donné, il se prend dans la corde, puis il s'aperçoit qu'il est en train de se pendre avec sa corde, il est en train d'étouffer dans sa corde. Et le lendemain matin, on va le trouver entre ciel et terre, mort, gelé, dans la montagne. Son petit gars, 9 ans, est à l'école le lendemain. Et le professeur qui essaye de... qui vient de lui dire que son père est décédé, dit, écris ce que tu ressens. Écris ce qui se passe à l'intérieur de toi. Écris ta peine. Écris ta douleur. Écris ce que tu as à dire à Dieu. Et le petit gars se met à écrire et il raconte ce qu'il pense que s'est passé dans la tête de son papa au bout de sa corde. Il dit, papa, il était croyant. Quand il s'est vu mal pris, quand il s'est vu étouffé, quand il s'est vu perdu dans le vide, je suis convaincu que papa a dû crier après Dieu, sauve-moi, fais quelque chose pour moi, sauve-moi. Et il dit, j'ai l'impression que Dieu lui a dit, est-ce que tu le crois vraiment que je peux te sauver? Tu le penses-tu? Est-ce que tu le crois que je peux te sauver? Oui, tu peux me sauver, tu peux me sortir du pétrin, tu peux me sortir de là. T'es un Dieu qui nous a dit que quand on crie à l'aide, tu viens à notre secours, viens à mon secours, je crois en toi. Puis il dit, j'ai eu l'impression, et je pense que Dieu a dû dire, qu'est-ce que tu devrais faire pour être sauvé? Qu'est-ce que tu devrais faire pour t'en sortir? Qu'est-ce que tu devrais faire? Et il dit, j'ai l'impression que papa a dû dire, je devrais prendre mon couteau que j'ai dans la poche, puis je devrais couper le câble. Puis il dit, j'ai l'impression que Dieu a dit, fais-le, coupe le câble. Puis papa ne savait pas à quelle hauteur il était. Il était dans le vide, il faisait noir. Et comme il ne savait pas la hauteur, il n'a pas voulu prendre le risque, il n'a pas voulu lâcher prise, il n'a pas voulu s'abandonner. Il a étouffé dans sa corde parce qu'il n'a pas voulu couper la corde. Et l'enfant dit, si papa avait coupé la corde, il aurait été sauvé. T'as une Moses de corde à couper. T'as quelqu'un à laisser partir. T'as quelque chose sur lequel il faut que tu lâches prise. Il y a quelqu'un qu'il faut que tu abandonnes à Dieu. Il y a quelque chose qu'il faut que tu coupes un matin, aujourd'hui. Je ne sais pas si c'était autour de ta consommation, je ne sais pas si c'est dans ta sexualité, je ne sais pas si c'était un pardon que tu n'as jamais donné aux hommes, je ne sais pas la corde que tu as coupée. Mais la vie te dit que le sacrement du pardon ce matin, si tu veux t'aider dans le sacrement du pardon, va voir le prêtre en lui disant, je pense que j'ai une corde à couper. J'ai quelqu'un à laisser partir. J'ai quelqu'un. Ma dernière blonde, je ne l'ai pas encore laissée partir. Je suis en train de l'étouffer, je suis en train d'étouffer. La première fille avec laquelle j'ai été en amour, ça fait 5 ans de ça, puis je ne l'ai pas laissé partir. Je suis encore, je vis de mes rêves, je vis dans le passé. Je voudrais toujours revenir à ma bouée de sauvetage. Coupe la corde. Trouve la corde que tu as à couper et laisse-la partir. Et je vous laisse avec un petit exemple sur le sacrement du pardon. C'est Léonard de Vinci, un grand peintre, qui a fait le tableau des 12 apôtres, le jeudi saint au soir. Léonard de Vinci, on raconte que Léonard de Vinci, pour chaque apôtre, il fallait qu'il aille chercher un modèle. Alors, quand il est arrivé pour le dernier, Judas, il est allé chercher quelqu'un dans les fonds de cour, dans les tavernes, un homme ravagé par l'alcool, complètement défiguré par l'alcool. Alors, il l'amène à son studio et lui dit, « Est-ce que tu accepterais? J'ai besoin d'un modèle pour faire le visage de Jésus. » Et l'itinérant, le clochard, il prend la lanterne sur le bureau de Léonard de Vinci, puis il l'approche de son visage, puis il dit, « Monsieur Leonardo, vous ne me reconnaissez pas. Vous ne savez pas qui je suis. Vous ne vous souvenez pas. » Non, je ne me souviens pas. Monsieur Leonardo, quand vous avez commencé la toile, vous avez dessiné le visage de Jésus. Il y a 2 ans, c'est moi que vous avez demandé pour être le visage de Jésus. Et 2 ans après, vous m'avez demandé d'être le visage de Judas. Et Léonard de Vinci dit, je me suis rendu compte ce jour-là que derrière la personne dévisagée par la vie, défaite par la vie, il y a toujours le visage de Dieu qui sommeille à l'intérieur de lui, à l'intérieur d'elle. Il faut que tu réveilles, par le sacrement du pardon, il faut que tu réveilles le géant qui est à l'intérieur de toi. Il y a un géant à l'intérieur de toi. Il y a une femme amoureuse à l'intérieur de toi. Il y a un gars d'une beauté rare à l'intérieur de toi. Réveille ça. Il y avait une jeune, il y a quelques années, au cégep Palimoulou à Québec, qui faisait un travail sur la mort. À 18 ans, au cégep en philo, un travail sur la mort. Alors, elle est en train de garder ses 2 neveux. Et il a un neveu, le plus vieux, 7 ans, il dit, « Ma tante, c'est quoi dans ce mourir? » Elle dit, « Mourir, c'est quand tu vas t'endormir. » Elle dit, « C'est comme si tu t'endormais le soir avec ton petit frère, puis vous ne vous réveillez plus le lendemain matin. » Il dit, « Ah! » Son petit frère, 5 ans. Ah, il dit, ma tante, c'est au bout, c'est capotant, ma tante. Ah, il dit, moi, je mourirai pas, hein? Ben, comment ça, tu dis que tu mourras pas? Ma tante, tu dis que mourir, c'est s'endormir le soir, puis pas se réveiller le lendemain matin. Moi, ma mère, elle vient me réveiller à tous les matins. Je mourirai jamais. Les femmes, les filles, organisez-vous pour que votre chum, là, ce mot t'a dit géant, là, il est bien capable de s'endormir avec le temps, puis avec les années, puis avec la vie, hein, à y réveiller ce géant qui dort. Réveillez-le à son plus beau, puis à ses rêves. Puis laissez-les pas s'endormir à plate, là. Réveille le géant qui dort. Le sacrement du pardon, c'est d'aller voir le prêtre, puis de réveiller, te laisser réveiller le meilleur de toi. On se lève, on prend un chant, et après le chant, ils vont vous expliquer, on prend quelques minutes pour se détendre, et après ça, on revient, les prêtres vont être à votre disposition, on va vous expliquer l'imposition des mains, alors pour que vous viviez une expérience vraiment de libération très profonde.
Quoi,